Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. RTL Soir, version vendredi. Ravi de vous accueillir pour 2 heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre. Comprendre qui se cache concrètement derrière la Confédération islamique Milli Görüs, une association de la communauté turque très implantée dans l'est du pays qui a fait parler d'elle par 2 fois ces derniers jours. Une polémique avec une école à Albertville, une autre avec la construction de la mosquée de Strasbourg. Finalement, face à un bras de fer entre l'État et la mairie alsacienne, les promoteurs du projet renoncent à une subvention municipale de 2,5 millions d'euros. Dossier trop sensible, trop commenté. L'association fait marche arrière, la mairie prend acte et le gouvernement se réjouit. Alors, explication complète dans RTL Soir et décryptage à 18h15 avec notre invité spécialiste, chercheur à l'Institut Montaigne. C'est Hakim Elkaroui. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir, le journal avec Agnès Bonfillon. Bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. 4 jours après son enlèvement, toujours aucune trace de la petite Mia. Sa mère est également introuvable. Elle pourrait être en fuite à l'étranger, selon le procureur de la République. Peut-être une 3e dose de vaccin nécessaire dans les mois qui suivent la 2e injection. À ce stade, les autorités y réfléchissent, surtout pour les personnes immunodéprimées. Un déjeuner de travail dans un hôtel. Cette fois, c'est une sénatrice qui est accusée d'avoir enfreint le règlement sanitaire. Sauf que ce repas a été pris dans le salon d'une chambre et pas dans un restaurant. Les supporters lillois voient déjà leur équipe championne de Ligue 1 cette année. En tête du classement, les Dogs affrontent Montpellier ce soir. Les crocodiles, animaux d'une autre espèce.
Vous êtes très inspiré. Vos incontournables dans RTL Soir en 2 temps, 18h50 tout à l'heure, Éric Brunet et sa liberté de parole. Et 19h15, on défait le monde avec Sini et compagnie. Avant tout cela, la météo de demain. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Pas moyen d'avoir chaud ces prochains jours.
Non, moins 4 degrés. Demain matin à Aurillac, moins 3 à Nevers, 0 à Rennes, 4 à Paris et à Montpellier. Un ciel assez clair demain matin, sauf près de la Méditerranée où il y aura déjà des averses orageuses. Dans la journée, ces averses vont se confirmer sur tout le bassin méditerranéen. Ailleurs, un ciel bien nuageux. Les meilleures chances d'éclaircies plutôt vers la Manche et vers les côtes atlantiques avec des températures qui ne veulent toujours pas décoller. 10 degrés, pas mieux à Cherbourg, 11 à Abbeville, 12 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 13 à Paris et Bourges, 15 à Bordeaux et 17 à Nîmes.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Toute l'actualité, Agnès Bonfils. Fillon et toujours aucune nouvelle ce soir de Mia, âgée de 8 ans.
Elle a été enlevée mardi dans les Vosges et selon les 4 hommes soupçonnés de l'avoir kidnappée actuellement en garde à vue, eh bien c'est sa mère qui a organisé l'opération pour récupérer sa fille. On en parlera tout à l'heure. Elle en avait perdu la garde. Ce soir, sur RTL, nous vous proposons d'écouter le grand-père maternel de l'enfant. Claude comprend tout à fait le geste de sa propre fille et bien plus que ça, il l'approuve.
N'avait pas retiré la garde de sa fille à ma fille, quoi. C'est profondément injuste, d'autant plus que c'est elle-même qui l'a confiée à sa mère quand elle était malade et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper.
Et aujourd'hui, si jamais elle vous entend, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Lola ?
C'est bien ce que t'as fait, ma fille, t'as protégé ta fille, c'est bien. Ça fait 3 mois qu'il y a une condamnation du juge, comme quoi elle devait voir sa fille une fois en 15. Ça n'a toujours pas été mis en place. C'est... La justice ferait mieux d'aller balayer un peu devant sa porte avant de traiter les autres de rapteurs d'enfants.
Le grand-père maternel de Mia avec notre consoeur Solène Rigoulet de la radio Vosges FM. Les recherches, elles, continuent pour tenter de retrouver l'enfant. Selon le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Haït, une fuite à l'étranger est tout à fait possible.
Des investigations réalisées. Il n'est cependant pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national. Notre département, les Vosges, sans être frontalier, n'étant pas très éloigné de plusieurs frontières. Des diffusions internationales ont bien entendu été réalisées pour faciliter leur localisation et leur appréhension.
Des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. On le disait, 4 hommes ont été interpellés. Ils sont toujours en garde à vue à l'heure actuelle, Alice Moreno. Et c'est eux qui commencent à expliquer le scénario très précis du rapt de l'enfant.
Oui, ils reconnaissent et revendiquent même cette opération qu'ils qualifient d'extraction et d'exfiltration. Le procureur d'Épinal a souligné le caractère très organisé de ce rapt. Ces hommes ont, semble-t-il, été contactés par la mère de Mia via Internet. Puis ils ont rédigé un script tout un discours qu'ils prévoyaient de tenir à la grand-mère de la petite. Ce qu'ils ont fait, trois d'entre eux se sont présentés à son adresse, se sont fait passer pour des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et ont emmené la petite Mia sans violence. Puis ils sont partis à bord d'un véhicule conduit par le quatrième suspect et ont remis l'enfant à sa mère une vingtaine de minutes plus tard. Ces quatre individus âgés de 23 à 60 ans sont désormais poursuivis pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans en bande organisée et en cours la réclusion criminelle à perpétuité.
Et certains d'entre eux, Alice, sont aussi sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet antiterroriste.
Absolument, des sachets de poudre et une recette qui pourrait être celle d'un mélange explosif ont été retrouvés au domicile de l'un d'entre eux, selon une source proche du dossier. Ces éléments sont en cours d'analyse, mais avant même cette découverte, plusieurs des suspects étaient déjà surveillés par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ils présentent des profils proches de la mouvance survivaliste, complotiste et tiennent un discours hostile aux institutions de la République. Mais à ce stade, aucun projet d'attaque n'est confirmé.
Merci Alice. Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Finalement, la mairie de Strasbourg ne versera pas la subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction de la mosquée. Cela avait provoqué un bras de fer entre la municipalité et l'État, mais ce n'est pas la maire Jeanne Barsaghian qui a pris la décision. Non, en fait, Yannick Collant, c'est l'association derrière le projet qui a décidé de retirer sa demande de subvention.
Oui, c'est un coup de théâtre qui permet de débloquer la situation après des semaines de polémique. L'association Miliguerush qui construit la mosquée a décidé de retirer sa demande de subvention publique, ce qui permet à Jeanne Barsaghian, la maire de Strasbourg, de renoncer à sa délibération sans faire marche arrière.
C'est le retrait de la demande de subvention par l'association Miliguerush. Et donc ça signifie que l'affaire est close. J'ai suivi les procédures habituelles. Je constate aujourd'hui qu'elles ont besoin d'être renforcées et clarifiées. Et donc je tire quand même les leçons de cet épisode de ce point de vue. Non, ce que je regrette très profondément, c'est la tonalité de la polémique des dernières semaines, très violente, très agressive. C'est pas digne de ce débat démocratique.
L'affaire n'est pas complètement terminée pour autant. La préfecture a annoncé qu'elle maintenait, malgré tout, son recours devant le tribunal administratif pour faire annuler définitivement la décision strasbourgeoise. En attendant, sur le terrain, le chantier de la mosquée, commencé il y a plusieurs années, se poursuit, mais sans argent public.
Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. La mort d'Éric Raoult, l'ancien ministre chiracien, puis proche de Nicolas Sarkozy, est mort aujourd'hui à l'âge de 65 ans. De 1995 à 2014, il avait été le maire du Raincy en Seine-Saint-Denis. C'est là d'ailleurs que ses obsèques auront lieu mercredi prochain.
L'épidémie à présent, Agnès, est la question du jour. À l'avenir, faudra-t-il se vacciner tous les ans contre le coronavirus?
Un peu comme la grippe finalement. C'est une possibilité selon le PDG du laboratoire Pfizer. En tout cas, le laboratoire privilégie la piste d'une troisième dose d'ici 6 mois à 1 an. Mais à ce stade, Virginie Garin, est-ce que les autorités françaises l'envisagent ?
Alors, pour l'instant, non, mais au cas où, elle s'y prépare, explique ce soir le ministère de la Santé. Alors, déjà, depuis lundi, certaines personnes dont le système immunitaire est très fragile, par exemple, des personnes soignées contre un cancer, peuvent bénéficier d'une troisième dose. Pour le reste de la population, pour l'instant, les vaccins sont jugés suffisamment efficaces avec 2 doses. Les études ont montré qu'ils protégeaient pendant au moins 6 mois. Cela dit, on n'a pas de recul. Donc, si de nouvelles études montraient une baisse des anticorps au bout de 8 ou 10 mois, là, les autorités de santé pourraient envisager une troisième dose, ou dans le cas aussi où un variant viendrait à se développer en France, résistant au vaccin, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le Pfizer et le Moderna ont une bonne efficacité contre le britannique, mais aussi contre le sud-africain. Il y a des études en cours sur le brésilien, et de toute façon, c'est ce qu'a expliqué le patron de Pfizer, comme on risque de devoir vivre pendant longtemps avec ce virus, il faudra peut-être à l'avenir se revacciner chaque année avec un vaccin adapté aux mutations les plus récentes.
Merci beaucoup Virginie Garin, chef du service qualité de la vie.
RTL Soir, la suite c'est dans un instant, il est 18h09, la suite du journal d'Agnès Bonfillon avec notamment le repas d'une sénatrice qui fait parler, à tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon pour la suite du journal à 18h10 et un petit test de logique.
En ce moment, les restaurants sont fermés, mais un salon privé dans une chambre d'hôtel peut-il accueillir des convives pour un déjeuner de travail ? Oui, selon Joëlle Garriaud-Mellam, sénatrice représentant les Français de l'étranger. Elle n'hésite pas et elle ne voit pas pourquoi son repas de mercredi au Meurice à Paris est à la une du site Mediapart.
ce n'est pas interdit à partir du moment où c'est un room service qui se fait dans une chambre d'hôtel ou dans une suite d'hôtel. Dans ce cas-là, c'était le salon de la suite que cet avocat président de fondation avait réservé. Il me disait justement d'ailleurs que là, il avait pris une suite pour justement avoir la possibilité de faire un déjeuner de travail avec moi. Voilà, c'est tout. Mais c'était le seul moyen. Et on a des emplois du temps qui sont extrêmement chargés. Donc oui, on est obligé d'utiliser chaque heure qui passe. Et le déjeuner aussi un moment où l'on travaille. Donc cette espèce d'acharnement, de harcèlement contre les politiques, je trouve ça assez lamentable.
La sénatrice Joëlle Garriaud-Mellam qui répondait à Jacques Serret pour RTL.
Agnès, on en vient à l'épisode de gel de la semaine dernière, dramatique pour les agriculteurs. Et en tant que consommateur, on pourrait bientôt s'en apercevoir dans nos assiettes.
Oui, aura-t-on les mêmes fruits et légumes de saison? Seront-ils plus chers ou pas? Bref, à quelles conséquences faut-il s'attendre, Mourad Djabari?
Eh bien, avec cet épisode de gel historique, les conséquences seront très concrètes sur les étals dans quelques semaines.
Les cerises, les abricots, les poires, les pommes, les kiwis.
À noyaux ou à pépins, tous les fruits ont été touchés. Des fruits, il y en aura et il y en aura moins. Attention, on ne parle pas ici de pénurie, mais bien sûr, comme le prédit Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, ce qui est rare est forcément plus cher.
Quand il y a moins de produits, les prix montent. C'est normal, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc il risque d'y avoir une hausse des prix. L'année dernière, quand il y a eu moins 26% d'abricots, il y a eu une hausse des prix de 40%.
Les producteurs sont en ce moment dans les vergers. Il faut attendre encore quelques semaines pour un bilan définitif des pertes. Mais d'après Patrice Vulpian de la Fédération nationale des producteurs de fruits, il ne faut pas s'attendre non plus à une hausse vertigineuse des prix.
De toute façon, cette augmentation ne pourra être que modérée. On ne pourra jamais vendre des fruits, par exemple, à 10 euros le kilo. C'est pas envisageable. Ça ne va pas exploser non plus.
Et donc, pour certains fruits, d'après les producteurs, on devrait connaître une augmentation d'une dizaine de centimes au kilo.
Mourad Djabari pour RTL. On les appelle les TPE, les très petites entreprises, mais peu importe la taille, cela n'empêche pas les élections syndicales. Ce vendredi, très faible participation, 5,4% au niveau national. C'est la CGT qui arrive en tête du scrutin devant la CFDT et l'UNSA. Nouvelle fusillade aux États-Unis. Cette fois, un homme a ouvert le feu dans un entrepôt FedEx de Minneapolis avant de se suicider la nuit dernière. En tout, 8 personnes ont été tuées. Joe Biden, le président américain, vient de déclarer que la violence des armes meurtrissait l'âme de la nation. Dans un souci de désescalade dans la région, Angela Merkel, Emmanuel Macron, mais aussi le président ukrainien Zelensky, appellent au retrait des troupes russes à la frontière. Avec l'Ukraine, justement, l'homologue du président français était reçu à l'Élysée aujourd'hui. Il espère une réunion très prochainement à 4 avec Vladimir Poutine cette fois.
Et puis le football et les dogs qui espèrent ne pas tomber sur un os ce soir.
Ainsi, poursuivre sur leur belle lancée, évidemment, à 21h. Lille accueille Montpellier en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Les nordistes sont pour l'instant en tête du classement. Et si le titre était pour eux cette année, plus que jamais, les supporters y croient, Franck Hanson.
Oui, même si le coach nordiste répète que le LOSC n'est pas programmé pour le titre, ses supporters commencent à y croire.
On n'a jamais été aussi près. Elle nous a fait plaisir, cette équipe, cette année.
Il reste encore 18 points à prendre, donc on n'a que 3 points d'avance sur le deuxième. Chaque match, en fait, c'est un peu une finale. Mais ça se rapproche, on y croit de plus en plus.
10 ans après le dernier sacre, Franck Defenin, patron du bar Le Chagneau à Tourcoing, se dit que les Dogs, notamment avec leur précieux buteur turc Burak Yılmaz, ont leur destin en main.
C'est vrai qu'on rêve, ça fait plaisir de voir justement des telles valeurs sur le terrain, parce que nous, les gens du Nord, du LOSC, c'est ce qu'on veut. On veut des gens qui mouillent le maillot, qui s'arrachent sur le terrain. Moi, franchement, j'y crois vraiment, surtout que Paris, je pense que cette année, a une grande chance en Ligue des Champions. Ils préfèrent gagner la Ligue des Champions que le championnat. Mmh. Donc c'est peut-être aussi notre chance cette année.
Des supporters lillois comme Alex, malgré tout frustrés en cette saison Covid face au Montpellierin, le stade Pierre-Mauroy sera encore désespérément vide.
C'est une énorme frustration. Les matchs, là, en plus qu'on voit à domicile, ça aurait été la fête en tribune, et je pense que le stade aurait été plein tout le temps. C'est vrai que les matchs sont un peu ternes. Heureusement qu'ils nous font rêver dans le jeu.
Lille reste sur 2 victoires consécutives, mais Montpellier est invaincu depuis 13 rencontres. Devant leur télé ou à la radio, Franck et ses copains s'attendent à un match ouvert.
Le reportage de Franck Hanson, Lille-Montpellier, coup d'envoi à 21h. Le match est évidemment à suivre dans RTL Foot avec Philippe Sansfourche et Xavier Domergue au commentaire.
Tout est dit, Agnès Bonfillon. L'actualité, évidemment, c'est l'appli RTL quand vous le souhaitez. Agnès revient vous informer tout à l'heure à 18h30. Restez bien là, dans un instant, on va revenir sur la polémique sur la construction de la mosquée de Strasbourg avec notre invité, chercheur de l'Institut Montaigne. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Stéphane Carpentier.
18h18, je voulais qu'on s'arrête ensemble ce soir sur le coup de théâtre, le rebondissement dans la polémique sur la construction de la mosquée de Strasbourg, parce que finalement l'association Miligorus, présentée comme proche de l'État turc, renonce à demander une subvention à la mairie alsacienne. On va comprendre les choses avec un spécialiste, chercheur de l'Institut Montaigne, Hakim El-Karoui, est connecté dans RTL Soir. Merci d'être là, bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
C'est une subvention de 2 millions et demi d'euros qui avait été accordée par la mairie alsacienne, provoquant d'ailleurs un vrai bras de fer avec l'État. Et donc la demande de subvention est retirée par l'association. Est-ce qu'on peut imaginer ce soir pourquoi ?
Alors, la mairie, suite à l'intervention de l'État, avait mis des conditions. Et la condition, c'était que le conseil régional et le conseil départemental suivent. Je pense que le Miligorus a compris qu'il y avait trop de polémiques et qu'ils n'auraient jamais leur argent. Et donc, ils préfèrent se retirer avant d'avoir un refus. C'est assez conforme à une forme de fierté qu'ils essayent de diffuser. Enfin, c'est plus que de la fierté, c'est de la volonté de puissance. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est en jeu.
Mmh. Miligorus, l'association Quid, justement, elle a toujours accusé les accusations d'allégeance à Ankara ou de séparatisme. La proximité avec l'État turc, aujourd'hui, elle est avérée.
Alors, il faut revenir juste un peu en arrière sur leur histoire. Ils ont été créés par un leader islamiste, Necmettin Erbakan, dans la fin des années 60. Ils sont diffusés en Europe dans les années 80. Et à cette époque-là, ils étaient opposés au gouvernement turc. Parce que c'était, en gros, les frères musulmans turcs. Et le pouvoir turc était laïque, mais laïque à la sauce turque, c'est-à-dire la religion contrôlée par l'État. Et eux, évidemment, ils voulaient pas être contrôlés par l'État. Donc, ils peuvent dire qu'ils ont une tradition d'indépendance face au pouvoir turc. Sauf que Necmettin Erbakan, c'était le mentor de Erdogan, et quand Erdogan est arrivé au pouvoir, il y a eu un rapprochement entre l'État turc et le Miligorus. Mais pour autant, c'est pas une organisation qui dépend directement de l'État turc, comme il y en a d'autres très actives en France, comme par exemple DITIB.
Mmh. Miligorus est particulièrement implanté dans l'Est de la France, c'est ça, hein ?
Oui, mais c'est tout simplement parce que c'est là qu'il y a beaucoup de franco-turcs. Pour mémoire, il y en a à peu près 500-600 000.
L'histoire de la mosquée à Strasbourg, comme d'autres projets assez importants d'ailleurs, il y a eu l'épisode de l'école privée d'Albertville. C'est quoi, c'est pour cette association ? C'est histoire de marquer son territoire, de montrer sa puissance ?
Oui, mais avec deux publics d'une certaine manière. D'abord, ils parlent aux Turcs, aux franco-turcs. Il y a une compétition interne. La mosquée du Miligorus, elle est concurrente avec la mosquée du DITIB. Le DITIB, c'est l'administration religieuse officielle turque à l'étranger. Et donc, ils veulent montrer que leur mosquée est plus grande que celle de leur concurrent turc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils veulent montrer aussi qu'ils sont en train de faire la plus belle mosquée d'Europe, la plus grande mosquée d'Europe, et qu'ils rayonnent sur tous les musulmans européens et français. Donc, c'est le symbole du pouvoir. Et l'école très importante à Albertville, c'est ça aussi. On fait des projets un peu surdimensionné, parce que tout simplement, on est un peu mégalo.
La mosquée de Strasbourg, c'est pharaonique, vous le dites vous-même. C'est une trentaine de millions d'euros. Ils vont réussir à financer jusqu'au terme de la construction, ou ils peinent à trouver des fonds, là ?
Mais ils peinent à trouver des fonds, c'est bien pour ça qu'ils ont demandé des fonds publics. Des fonds publics qui sont possibles dans le cadre du Concordat, même si l'islam n'est pas un culte reconnu par le Concordat. Ils avaient commencé un plan de financement sans la mairie, et puis ils sont retournés vers la mairie parce qu'ils ne trouvaient pas d'argent. Donc oui, ils ont des difficultés. Le fait qu'il y ait plusieurs grands projets à Strasbourg liés à l'islam turc, ça simplifie pas les choses, parce que ça réduit en fait le nombre de donateurs potentiels.
Est-ce qu'on peut constater, prouver, affirmer que Miligorus promeut l'islam politique ? C'est Marlène Schiappa, la ministre, qui notamment l'a déclaré ce matin.
C'est des choses qui sont compliquées à prouver, parce que l'islam politique, c'est une idéologie et c'est d'abord des idées. Donc c'est une représentation du monde. Miligorus ne veut pas prendre le pouvoir en France. Ils ont essayé de prendre le pouvoir en Turquie, d'une certaine manière, ils ont réussi, mais pas en France. Donc, la dimension politique de leur islam, c'est qu'ils veulent que la société soit adaptée à leur vision de l'islam, qui est très conservatrice, où la femme a un statut qui est clairement inférieur à celui des garçons. On le voit très bien, d'ailleurs, dans le destin scolaire des filles d'origine turque. Mais ils sont pas du tout dans la violence, pas du tout. Et ils sont pas dans la confrontation politique avec les Et d'ailleurs, on l'a bien vu, là, ils se sont retirés. Sur la charte, ils n'ont pas signé la charte des valeurs de l'islam de France, c'est un autre exemple. Mais en fait, ils n'ont pas dit qu'ils ne la signeraient jamais, ils ont dit qu'ils devaient consulter. Donc c'est des gens, mais un peu comme Erdogan, ils testent, ils essayent de savoir jusqu'où on peut aller. Et la solution, c'est toujours c'est accepter le rapport de force. Et donc, c'est dire non.
C'est-à-dire qu'ils avancent au maximum et quand on leur met des barrières, ils reculent.
Ils reculent exactement comme les bateaux d'Erdogan dans la Méditerranée orientale cet été. Quand il y a eu une frégate française qui a été envoyée, là, il a compris qu'il fallait pas aller trop loin. Ben, eux, en fait, ils font pareil.
Je parlais d'un bras de fer tout à l'heure. L'État, plusieurs ministres s'étaient offusqués ces derniers temps qu'on accorde une subvention municipale aux promoteurs de ce projet, en estimant pourtant qu'on ne peut pas interdire ce type d'association. C'est pas facile d'avoir une position assez franche.
C'est pas facile et c'est la grandeur et la fragilité de notre démocratie. Dans une démocratie, on peut pas interdire tout ce qu'on veut combattre. Et il y a une zone grise où on laisse de la liberté à des gens qui partagent pas forcément les valeurs qui sont les valeurs de la société française contemporaine. Et qui ont une vision en plus sur l'intégration, eux, ils sont très clairs. Ils veulent pas d'assimilation. Ce qu'ils disent, c'est on s'intègre, c'est-à-dire on travaille et on pose pas de problème de sécurité, mais on veut pas devenir comme les autres Français. Ça choque en France parce que le projet français, c'est plutôt que tout le monde ressemble petit à petit aux autres Français et d'ailleurs se marie, se mélange, se métisse avec les Français. Eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent être à côté. Et pour d'ailleurs le président Erdogan, c'est essentiel pour des raisons politiques, parce qu'il a besoin du vote des Franco-Turcs, des Germano-Turcs, des Belgo-Turcs, parce qu'il vote aux deux tiers pour lui, alors qu'en Turquie il a moins de la moitié maintenant des électeurs. Donc oui, c'est compliqué, on est dans une zone grise.
En tous les cas, avec ces épisodes d'Albertville et de Strasbourg, c'est l'occasion pour l'État français de les freiner un petit peu dans leur expansion, dans leurs ambitions, non ?
Oui, et d'ailleurs ils ont compris puisqu'ils se sont mis en retrait et je pense qu'ils vont revenir sur la charte. Il n'est pas impossible à mon avis qu'ils trouvent le moyen, la justification pour la signer.
À vous comprendre, ça veut dire que l'association va faire quoi maintenant ? Profil bas, se faire un peu oublier ?
Oui, profil bas, et je vous dis probablement essayer de revenir sur le terrain des valeurs en disant ben, on a consulté nos adhérents, voilà ce qu'on veut changer sur la charte, finalement c'est pas grand chose et on est prêt à revenir. Ça m'étonnerait pas du tout.
Vous disiez tout à l'heure qu'ils mettent pas la violence en avant. On pense toujours que les mosquées sont des terrains de propagande de la cause djihadiste dans notre pays. Est-ce que le cas de Strasbourg va dans ce sens-là ?
Non, vraiment pas. D'ailleurs, je viens de faire une grande étude, 700 djihadistes français étudiés. Il y en a pas un d'origine turque, il y en a aucun du Milli Gauche. Les mosquées sont pas les lieux du recrutement djihadiste. Le recrutement djihadiste, il se fait au pied des barres d'immeubles et sur les réseaux sociaux. Et la propagande djihadiste, elle est sur les réseaux sociaux. Elle est pas dans les mosquées et certainement pas dans les mosquées du Milli Gauche. Ça, il faut être clair, c'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est faux.
Voilà, ça c'est très clair. On parle beaucoup moins ces derniers temps justement avec l'actualité sanitaire qui dévore tout. Mais en avril 2021, là, est-ce qu'on doit craindre que le djihadisme soit encore devant nous, selon vous ?
Malheureusement, oui. Il y a 1300 djihadistes en prison, 500 terroristes et 800 personnes radicalisées. Le fichier FSPRT estime qu'il y en a 10 000 potentiels. En 10 ans, on a multiplié le stock, d'une certaine manière, par 10. Et le risque qu'on a, c'est que, en l'absence de théâtre extérieur, parce qu'il n'y a pas de crise géopolitique, il n'y a pas la Syrie, il n'y a pas l'Afghanistan, il n'y a pas l'Irak. Le risque qu'on a, c'est qu'il se retourne d'une certaine manière vers l'Europe et vers la France. Et ça, c'est vraiment un risque qui est malheureusement devant nous. J'espère qu'il ne se matérialisera pas, évidemment.
Merci de nous avoir éclairé ce soir et de nous avoir appris les choses. Essayiste, chercheur de l'Institut Montaigne, c'est Hakim El-Karoui qui était connecté dans RTL Soir. Merci à vous.
Merci à vous.
Il est pile 18h27, bon début de soirée. Dans un instant, l'actualité avec Agnès Bonfillon. Et la météo du week-end va pas faire chaud. C'est Valérie qui va le dire.
RTL Soir.
18h30.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce vendredi avec Agnès Bonfillon.
Presque tous les résidents d'EHPAD ont désormais reçu une première dose de vaccin. Les trois quarts en ont reçu deux. C'est Olivier Véran qui l'affirme cet après-midi. La vaccination progresse. Il y a une amélioration, mais je reste prudent, dit le ministre de la Santé. De son côté, le Premier ministre Jean Castex prévient, la troisième vague est loin d'être terminée. Les recherches se poursuivent pour retrouver Mia, 8 ans. Elle a été enlevée mardi. Selon les 4 hommes actuellement en garde à vue, c'est la mère de la petite fille qui est à l'origine du projet. Elle aussi est restée introuvable. Les enquêteurs n'excluent pas une fuite à l'étranger.
La violence des armes meurtrit l'âme de notre nation. Déclaration de Joe Biden il y a quelques minutes après une nouvelle fusillade aux États-Unis. Cette fois-là, c'était la nuit dernière. Un homme a ouvert le feu dans un entrepôt FedEx avant de se suicider. Ça s'est déroulé à Indianapolis. 8 personnes ont été tuées. Lille veut rester au sommet du classement de Ligue 1. Ce soir, en ouverture de la 33e journée, les Dogues reçoivent Montpellier. Coup d'envoi à 21h. Un match à suivre sur notre antenne dans RTL Foot.
Merci Agnès et toute l'actualité. Quand vous le souhaitez, vous allez sur l'appli RTL. Météoscope, c'est le temps des prochains jours avec Valérie. Et déjà le week-end qui s'annonce toujours aussi froid.
Oui, on n'arrive pas à s'en sortir. Bah moins non. 3 degrés à Montluçon demain matin, moins 2 à Mont-de-Marsan, 0 à Besançon, 4 degrés, pas plus à Paris comme à Avignon. Un ciel relativement bien dégagé en matinée, sauf près de la Méditerranée où on aura déjà des pluies orageuses, notamment entre les Pyrénées-Orientales et le Var. Dans l'après-midi, toujours des orages dans le sud qui vont gagner le Var, mais aussi la Corse cette fois-ci. Sur le reste du pays, un ciel de plus en plus nuageux, excepté près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, où là, on pourra avoir des éclaircies pas trop vilaines. Les températures, aura des pâquerettes. 11 à Mulhouse, 12 à Lille, 13 à Paris et Lyon, 14 à Rennes et Poitiers, 15 à Toulouse, maximum 17 pour Bastia. Et dimanche, figurez-vous qu'on aura toujours aussi froid, c'est fantastique, avec toujours des orages près de la Méditerranée, un ciel bien chargé en général, quelques averses dans l'est, toujours à l'ouest pour les meilleures chances d'éclaircies, 2 à 4 degrés maximum en général, donc le matin, 14 à 17 l'après-midi.
Et puis après, la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus doux, mais pas la folie non plus.
Ah non, c'est pas foufou. Déjà lundi, mardi, mercredi, on garde des températures quand même assez basses, 5 à 6 degrés le matin, 17 à 19 dans la journée, avec en plus un ciel assez chargé, quelques averses qui vont traverser le pays. On va dire qu'on peut tout miser à partir de jeudi. Non seulement on pourrait avoir des températures qui vont grimper un peu plus nettement, 5 à 7 degrés pour les moyennes du matin, 16 à 20 l'après-midi et avec un ciel un petit peu plus lumineux.
Météoscope signé dans RTL Soir, Valérie Quintin. Le vendredi dans RTL Soir, on défait le monde avec Cyprien Signé et son équipe de l'info de la détente pour vous accompagner entre 19h15 et 20h. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous, on va vous réchauffer.
Ah, tout est prêt, vous allez
bonne
nous
chance.
Parler de quoi?
Soyez bien à l'écoute ce soir, hein, parce que dans On défait le monde, on va vous faire un voyage fascinant. En ce moment, tout le monde se tourne vers le ciel, l'espace, on part à des milliers de kilomètres, sur Mars, sur la Station Spatiale Internationale. Mais sur Terre, il y a quoi sous nos pieds? Jusqu'à combien de kilomètres on est capable de creuser? Eh bien, vous aurez toutes les réponses en écoutant On défait le monde, qui vous offre donc un voyage au centre de la Terre. On vous éclairera aussi sur les régionales et les départementales, parce que bon, on a les dates des élections, ouais, mais ça sert à quoi, les régions et les départements? Et bien, le professeur de Sciences Po, Pascal Perrineau, allumera la lumière sur le sujet. Ce soir, il y aura aussi du Benoît Paire, de l'œuf maillot et même Édouard Balladur. Sans oublier un super cadeau, une enceinte connectée hyper puissante spéciale bamboche pour quand on pourra refaire la bamboche. Enfin, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux qui sont très fournis en ce moment pour plus d'On défait le monde et puis le direct, c'est à 19h15.
Benoît Paire, l'œuf maillot et même du Édouard Balladur. Ouais. C'est prometteur.
Il y aura tout. Vous les entendrez tous, sauf l'œuf maillot. Il
dans,
part pas.
Dans 45 minutes, on va faire défaire le monde avec Cyprien et toute l'équipe. On va faire le sport dans un instant avec notre invité ancien champion de judo, c'est Thierry Rey, qui est candidat à la présidence du sport olympique français. Il publie un vrai plaidoyer pour le sport. Il a des choses à nous dire, on a des choses à entendre à 98 jours maintenant des JO de Tokyo. Thierry Rey en studio dans une poignée de secondes.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Dernière seconde, Rodriguez s'élance et trop tard, Thierry Rey, champion olympique à 21 ans, veut savourer l'immense bonheur de remporter la médaille d'or de la catégorie des millégers, la deuxième du judo français à Moscou.
C'est cadeau Thierry Rey pour votre arrivée en studio. Bonsoir à vous. C'est pas tout jeune, c'est pas tout frais, mais ça fait plaisir. Quel souvenir.
Absolument, ça fait plaisir.
Premier champion olympique de judo, hein, c'était vous. 80, Moscou, les Jeux Olympiques. Merci d'être là. Vous, l'ancien champion titré à tous les étages. Vous avez depuis une seconde vie bien pleine, cinéma, télé, théâtre, consultant judo pour la chaîne Cryptée, président de club, très impliqué dans le monde du sport. Vous avez goûté au monde politique, même en étant conseiller du président Hollande. Et maintenant, vous rêvez de devenir président du CNOSF. L'élection, c'est fin juin, avant les Jeux de Tokyo et à 3 ans des JO en France à Paris. J'aimerais d'abord vous entendre ce soir sur cette année de confinement, d'épidémie qui a eu un impact considérable sur tout le monde et sur le monde du sport pro et amateur. L'Elysée planche, on l'entend depuis 2 jours, sur son calendrier de réouverture, de remise en route, de retour à une vie progressive. On parle des écoles, on parle des musées, on parle des cafés, on parle des terrasses. Mais il n'y a rien pour le sport.
Ben c'est un peu le problème. On parle parfois de sport, mais très rarement. Et je pense que le vote qui va intervenir, j'allais dire, pour renouveler le mouvement sportif, il y a déjà eu des élections des 108 fédérations. Le comité olympique, c'est 108 fédérations. Donc moi, je considère qu'on va rentrer dans une Olympiade. Il faut vraiment qu'on fasse entendre notre voix. C'est très important. Il faut qu'on fasse de cette institution, de ce mouvement sportif, un instrument politique. C'est d'abord inscrit dans ses statuts, hein. Il doit représenter, il doit défendre les intérêts du sport. Et je pense qu'on ne l'a pas suffisamment fait. Alors, évidemment, il faut porter la voix. On ne peut pas le faire tout seul. Hein. Il n'y a pas d'homme, pas de femme providentielle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes présidents de fédé, rations nouvellement élus. Il y a d'anciens aussi qui ont été pas mal, j'allais dire, bridés. Et toutes ces femmes, tous ces hommes ont envie d'appréhender la problématique sport, qui est éminemment importante dans notre pays.
Je comprends pas que ça soit pas la priorité aujourd'hui. On est toujours en train de nous dire il faut faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est un antidépresseur formidable. Pourquoi on se donne pas plus de moyens? Pourquoi on en parle pas plus? Pourquoi on le pratique pas plus? Pourquoi on n'aide pas à le pratiquer plus?
Mais parce que d'abord c'est notre responsabilité d'interpeller, de travailler, de faire en sorte de se faire écouter. Il faut qu'on soit responsable. Et je pense que cet outil, qu'est le comité olympique et cet formidable moment, on va rentrer, il y aura les Jeux de Tokyo, il y aura la rentrée des classes, il y aura les Jeux de Pékin, il y aura la Coupe du Monde de rugby et on va finir avec les Jeux à Paris. Ça va être une formidable opportunité pour que tout le monde sportif français essaye d'être beaucoup plus allant et porte un positionnement politique. Je pense qu'il faut être vraiment positif et il faut interpeller parce que aujourd'hui, le sport, c'est quelque chose de grand dans notre pays. C'est plus de 16 millions de licenciés, c'est 160 000 associations, c'est des millions de bénévoles qui normalement, sont au service. Vous savez, on entend beaucoup la culture et on la respecte éminemment. Et nous, c'est un exemple pour nous, la culture. On parle beaucoup de spectacle vivant. Mais le spectacle vivant, pour nous, il est tous les dimanches, il est tous les soirs de la semaine. On fait le sport, c'est un spectacle vivant permanent. Et il faut vraiment qu'on affirme ça de manière beaucoup plus forte pour se faire entendre.
Thierry, vous soulevez justement la question de la culture. Ils ont beaucoup râlé, ils se sont manifestés beaucoup ces derniers temps, beaucoup plus que les sportifs finalement, pour qu'on puisse redonner du sport à nos gamins. Ils sont privés de tout en ce moment, pour qu'on puisse retourner à la piscine, qu'on puisse s'agiter. Enfin, la culture a été meilleure que les sportifs, non ?
Mais la culture passe pourquoi ? Parce que c'est pas venu du jour au lendemain. La culture, elle milite, elle fait du lobbying, elle travaille, elle a des représentants, elle a des gens qui... Nous, on a quelques présidents de fédé qui ont essayé de se remuer, de se faire entendre. Mais d'abord, je pense que le Comité national olympique français, qui est cette force de frappe, n'est pas suffisamment utilisé. Et dans ce nouveau mandat, il va falloir absolument qu'on aille vers ce chemin. Donc moi, je me propose de faire ça. Je ne peux pas le faire seul. Je le ferai avec des gens motivés, hommes, femmes, je vous dis, nouvellement élus ou réélus. Et il faudra vraiment qu'on s'inscrive dans cette opportunité temporaire qui nous permette d'interpeller. Qui ça ? L'exécutif ? Aujourd'hui, on sait que tous décident par l'exécutif. Alors, il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c'est qu'on... Les clubs ont été fermés légitimement. Il y a eu des moments où, à cause de cette crise et cette pandémie, il fallait fermer les clubs. Mais on aurait pu avoir une approche beaucoup plus fine. On aurait pu avoir une approche territoriale. On aurait pu avoir une approche par sport. Il y a des sports de plein air, il y a des sports de salle. Comment on fait pour pallier au fait qu'on ferme des clubs pour aller peut-être vers une pratique de plein air? Et tout ça, ça a été arraché par des présidents de fédé qui se sont battus seuls dans leur coin. Et je pense que la mission première du mouvement sportif, c'est d'affirmer ces choses.
On parle des Jeux. Les premiers qui nous intéressent sont les Jeux de Tokyo. C'est donc cet été, si tout va bien. Cette épidémie, premier confinement il y a un an, ça a privé les sportifs pro d'entraînement, nos sportifs, c'est-à-dire nos champions, de vraie préparation. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact, là, dans quelques semaines, dans quelques mois, sur nos champions qui n'ont pas eu l'occasion de s'entraîner comme d'autres ? Parce que chez les voisins, ils ont pu les autres.
Mais absolument, je pense qu'il y a une diversité de pratiques, d'entraînement de très haut niveau en fonction des certains pays et du traitement de la pandémie qui va peut-être faire en sorte que les athlètes, quand ils vont arriver au jeu, vont pas être sur la même ligne de départ en termes d'entraînement. Nous, on a eu la chance quand même, il faut le dire, d'avoir un ministère qui a réagi et qui a permis aux athlètes de s'entraîner. Mais on a mis du temps avant de décider ça. Je pense que cette pandémie a impacté notre secteur aussi fort que ceux des restaurateurs, effectivement, qu'on a entendu. La culture, j'en parle même pas. Et ayons le respect aussi de penser à tous ces Français qui ont perdu leur emploi. Et le sport peut-être une solution pour, j'allais dire, être mieux dans son corps, être mieux dans sa vie, être mieux dans son appartement tout seul, être mieux en famille, être mieux voilà, dans ce quotidien. C'est ça aussi le sport, c'est une manière de se comporter, de vivre ensemble.
Ils sont impatients, nos champions, évidemment, d'être à Tokyo. On entendait mercredi sur RTL Teddy Riner, Renaud Lavillenie, Chaud. Ce seront des jeux particuliers. Il n'y aura pas de public étranger. Mmh. Il va falloir beaucoup se tester. Il faut vacciner nos athlètes. Est-ce qu'il faut l'imposer, le vaccin, à nos athlètes?
Non. Moi, je pense que c'est une décision individuelle. On est dans un pays où, heureusement, on a des paramètres démocratiques qui sont importants. Quand on était petit, je me rappelle que moi, j'ai subi le BCG ou tous ces vaccins. Je vais parler un instant. Moi, je suis pro-vaccin à mort. Mmh. Moi, j'ai une grand-mère, vous savez, elle a perdu 2 enfants le même jour. Elle a perdu 2 filles qui ont eu la diphtérie parce que le vaccin, il n'était pas en France. Il était en Allemagne, il était en Angleterre. Et elle a perdu 2 enfants. Alors moi, je ne vais pas obliger personne à vacciner, mais je conseille très fortement de... Après, il faut aussi que nos politiques nous aident. Quand on voit comment on a traité le vaccin, comment on a géré, quand on voit certains pays qui ont acheté bien avant nous, avec ces 3 vaccins, le Pfizer, le Moderna et puis l'AstraZeneca, c'est comment on gère tout ça, comment on fait la promotion et comment on nous change pas de cheval tous les 15 jours. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'interrogent.
Thierry Rey, est-ce que vous écartez totalement le scénario d'une annulation des JO de Tokyo, vu le contexte sanitaire? C'est dans 98 jours, récemment des mots d'autorité japonaise. C'était pas écarté.
Je peux pas vous répondre. Ouais. J'ai pas la réponse. Aujourd'hui, on a entendu effectivement hier des Japonais, notamment le numéro 2 du pouvoir en place, s'exprimer sur un retrait des Jeux. Il y a beaucoup de Japonais qui sont contre la tenue des Jeux. Mmh. Vous savez, je vais me projeter dans l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Jeux de Paris 2024. Moi, je travaille aujourd'hui pour les Jeux de Paris 2024. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts. Il y aura cette grande fête des Jeux. Mais les Jeux, ça sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à donner du sens. Et puisque je me présente aujourd'hui à la présidence du Comité Olympique, c'est aussi de faire de ces 3 ans, de ces 1000 jours qui vont nous faire aller vers les Jeux de Paris. Il faut qu'on puisse vraiment infuser beaucoup plus de sport dans le quotidien des Français. Il y a beaucoup de gens qui sont responsables de ce point de vue. Je pense que les maires de France, les régions, les départements se mouillent beaucoup pour que le sport puisse atteindre les Françaises et les Français. Je pense que l'État pourrait être beaucoup plus allant et il faudra porter cette voie.
Alors Tokyo, on croise les doigts évidemment pour cet été. Paris, JO 2024, c'est dans 3 ans, vous le dites, vous êtes très impliqué. Est-ce qu'on est en retard en raison de la crise sanitaire?
Non, absolument. Il y a la société de livraison des équipements olympiques, la Solideo, assume un travail formidable puisque le village olympique est sur des bons rails. Nous, tout ce qu'on est en train de faire sur le sens, le comité d'organisation des Jeux dirigé par Tony Estanguet, écoutez, ça avance. On est dans les clous. Non, il n'y a pas de retard. Il y a eu peut-être un petit problème. Enfin, il y a un juge qui a arrêté les travaux sur le village des médias. Mais globalement, on peut dire que on est dans les clous et c'est un très très grand projet qui donnera un peu d'espoir et d'aération à ce qu'on vit en ce moment.
Alors, vous êtes candidat donc à la présidence du CNOSF au même titre que Brigitte Henriquez de la FFF, que Patrice Martin, le président de la Fédération de ski nautique, Emmanuel Bonnet Ouladji, qui est l'actuel président de la Fédération sportive et gymnique du travail. Votre discours pour être le gagnant, c'est quoi?
Déjà, j'aimerais qu'il y ait un débat d'idées, moi, qu'il y ait un débat démocratique. Mmh. On s'est rendu compte qu'il y a certains candidats qui ont déjà amassé leur soutien, qui déclarent qu'ils ont machin. Non, moi, je suis sur quelque chose sur le débat de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de faire de la politique. Ça va être important. On se rend compte que cette institution, ce mouvement sportif, n'en a pas fait. Je pense qu'être aujourd'hui le seul candidat qui ait déclaré qu'il fallait faire de la politique. Et je suis prêt à y faire avec un parcours qui est pluriel, qui est transversal. Et puis après, il faudra aussi que ce comité olympique soit un centre de ressources pour les fédérations. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne. Vous parliez de la FFF, il y a des grandes fédérations en sport. En France, il y a 5 ou 6 fédérations qui regroupent 95% du sponsoring. Mais je le disais tout à l'heure, le mouvement sportif, c'est 108 fédérations. Et dans leur diversité, dans leur richesse, il faudra les accompagner à aller vers les Jeux et surtout vers après les Jeux. Qu'est-ce qu'on fera une fois que la fête sera finie? Qu'est-ce que ce sera le comité olympique? Dans quel état seront ces fédérations? Et je pense qu'il faut des hommes et des femmes motivés et qui proposent un autre discours sur le fond. Et puis on gagnera la forme avec ça.
Et pour tous les sports?
Ah bah évidemment, il n'y a pas de distinction possible. Vous savez, cet après-midi, j'étais avec le président de l'haltérophilie au téléphone, j'étais avec le président du parachutisme, et je rencontre tous les présidents dans leur diversité. Chacun a des spécificités, mais c'est ce qu'on doit offrir à nos concitoyens. C'est une transversalité des pratiques.
Plus de sport dans notre société, est-ce qu'on peut y croire vraiment? Est-ce que la France est un terrain de sport, est un pays de sport avec une vraie culture?
Aujourd'hui, non. La France est un pays de sportifs, et on a les atouts pour être un pays de sport. On a des équipements. D'ailleurs, il y a 50% de ces équipements sur lesquels il faudra retravailler parce que ça commence à devenir un peu brinque-ballant. On sait qu'il y a eu des formidables moyens, mais pour le patrimoine offert à notre ami Stéphane Bern, je pense que le patrimoine des équipements sportifs français aurait bien besoin aussi des aides de l'État. Et ça, c'est pareil, c'est des secteurs qui va falloir travailler. Mais je pense qu'on y est prêt. Vous savez, les villes, les fédérations, les comités, les bénévoles, tout ça, ça existe réellement. Vous savez, le sport, c'est quelque chose de très amusant, où on s'amuse, on échange, on s'éclate, on perd, on gagne, on vit des émotions extraordinaires d'ailleurs, comme dans la culture. Mais le sport, c'est quelque chose de très sérieux, il faut s'en occuper très sérieusement.
C'est-à-dire dans le plaidoyer pour le sport que vous avez signé, Thierry Rey.
Absolument.
La candidature, elle est engagée, qu'engagée, oui. Et l'élection, c'est fin juin.
C'est le 29 juin, et les présidents de fédération décideront de ce qu'ils veulent faire.
Les 108,
de cette magnifique institution.
Merci d'être passé par RTL Soir. Thierry Rey, l'ancien champion de judo et donc président, candidat à la présidence du CNOSF. Je suis allé un peu vite. Dans un instant, c'est Éric Brunet qui nous accompagne avec sa liberté de parole. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
La semaine d'Éric Brunet dans RTL Soir, c'est le vendredi avec sa liberté d'expression et les temps forts des derniers jours. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Premier acte qui nous ramène à mercredi avec le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui a annoncé avoir précommandé 500 000 doses de vaccins russes.
Et oui, selon la revue de Lancet, l'efficacité de Sputnik V contre les formes graves de Covid est de 91%. Sputnik V est déjà autorisé dans une soixantaine de pays quand même, regroupant au total 1,5 milliard d'individus, Pakistan, Argentine, Venezuela, Kazakhstan, Libye, Arménie, Serbie, et la Chine, l'Inde et l'Algérie vont également pouvoir le produire. Alors, au sein de l'Union européenne, des pays ont déjà commandé des vaccins sans attendre l'autorisation des instances européennes. C'est le cas de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l'Autriche, et ça fait plus de 2 mois, au passage, que le vaccin russe est administré en Hongrie, pays le plus vacciné de l'Union européenne. La semaine dernière, le Land de Bavière, puis l'Allemagne tout entière ont annoncé qu'ils souhaitaient acheter du Sputnik, et pendant ce temps-là, le commissaire européen français, Thierry Breton, lui estime que l'UE n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de votre Sputnik parce que c'est le vaccin de Poutine, en gros. D'ailleurs, notre ministre Jean-Yves Le Drian lui-même a qualifié le vaccin russe de moyen de propagande et de diplomatie agressive de la Russie. Franchement, Stéphane, moi je ne comprends pas que les questions géopolitiques continuent à prendre le dessus. Au cours de la guerre froide, d'ailleurs, c'est grâce à l'étroite collaboration entre un grand médecin américain et un grand médecin soviétique, eh bien, qu'on a mis au point le vaccin contre la polio, ensemble.
C'était mercredi également, Éric. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a présenté en Conseil des ministres sa réforme de la justice.
Oui, la mesure la plus commentée, c'est la généralisation des cours criminelles départementales. L'idée est toute simple, hein. 5 juges professionnels remplaceront les fameux jurys populaires. Un avocat en particulier s'est opposé à cela. Il a dit « L'intervention des citoyens est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges. Il n'y a rien de plus démocratique que la cour d'assises, alors que maintenant, excite le peuple, ça va se faire dans l'entre-soi. Je suis un peu taquin, car qui est cet avocat? C'est tout simplement Éric Dupond-Moretti qui avait dit ça en mai 2020. C'était juste un mois avant qu'il ne devienne garde des Sceaux. Alors, les partisans des juges professionnels, eux, font valoir que dans les zones où ces cours départementales de juges professionnels ont été expérimentés, ben, on fait moins appel. Le taux d'appel a baissé. Elles permettent sur tous ces cours de désengorger les cours d'assises et donc de juger plus vite. Voilà, il faut comprendre, cela dit, les avocats, hein, parce que la fin des jurys populaires, c'est aussi la fin des ténors du barreau, car les avocats ne plaident pas devant un jury d'assises comme ils plaident devant des juges professionnels. Face à des juges, ben, il n'y a que le dossier qui compte. Tandis que face à des jurés, l'avocat peut jouer sur son éloquence, les sentiments. Sans les jurys populaires, finalement, il n'y a plus de dramaturgie possible possible dans les procès, plus de grandes plaidoiries, plus d'envolées lyriques et plus de grands avocats pénalistes, donc plus de Moreau Giafferi, plus de Florio, plus de Badinter, plus de Vergès et plus de Dupont-Moretti.
Autre temps fort de la semaine, c'était jeudi, c'était hier. Emmanuel Macron a visité le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Bah, tout le monde se souvient où il était quand il a appris la nouvelle il y a 2 ans. Hein. Comme pour le 11 septembre 2001 ou la mort de Claude François ou de Johnny Hallyday. Impossible d'oublier les images de cette épaisse fumée blanche, de ce trou béant causé par l'effondrement de la flèche de la toiture de Notre-Dame. Une émotion considérable a saisi ce jour-là la France, mais aussi le monde entier. Qu'on soit croyant ou non, Notre-Dame, c'est le symbole de la France par excellence. Plus encore que la Tour Eiffel. Hein. C'est à la fois Notre-Dame, c'est à la fois Saint-Louis, le Paris médiéval célébré par Victor Hugo, le sacre de Napoléon, la libération de Paris avec De Gaulle, bien sûr, Paris martyrisé, Paris libéré, vous connaissez la phrase du général. Preuve de l'ampleur de l'émotion qui a suivi l'incendie de la cathédrale, 833 millions d'euros de dons ont déjà été récoltés pour sa reconstruction de la part de 338 000 donateurs du monde entier. C'est un record. Notre-Dame est devenue le grand chantier présidentiel d'Emmanuel Macron. Hein. Pompidou avait eu Beaubourg, Giscard a eu le musée d'Orsay, Mitterrand l'Opéra Bastille, Chirac le musée du Quai Branly. Ben Notre-Dame aura eu droit à 2 présidents. Enfin, je dirais plutôt un roi et un président. Saint-Louis pour sa construction et son inauguration au XIIIe siècle. Et puis, 800 ans plus tard, au XXIe siècle, Emmanuel Macron pour sa reconstruction.
Notre-Dame qui sera d'ailleurs Notre-Dame de Paris, le sujet central de votre émission de dimanche 13h-14h. Éric Brunet avec vos débatteurs, vos invités dans Où va la France sur RTL. Dernier temps fort, c'était jeudi, avec les propos de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry, qui a accusé la marque Evian d'avoir cédé aux islamo-gauchistes.
Bah oui, Evian a publié sur le compte Twitter de la marque un tweet. Hein. Retweetez si vous avez déjà bu 1 litre d'Evian aujourd'hui. Parler de boire de l'eau le premier jour du ramadan, plusieurs internautes se sont insurgés et ont accusé Evian d'islamophobie. Il faut dire que sur le compte Twitter d'Evian, on publie régulièrement des messages publicitaires incitant les internautes à s'hydrater, à boire 1 litre d'eau par jour. Mais face à l'ampleur de la polémique, la marque du groupe Danone a présenté ses excuses toujours sur Twitter. Alors, s'excuser pour avoir incité à boire de l'eau, c'est plutôt étrange. Pas tant que ça, parce qu'avec les réseaux sociaux, les marques vivent désormais dans la terreur du bad buzz. Et les directeurs de la communication de toutes les entreprises françaises préfèrent finalement ramper, se perdre en excuses un peu suintantes, plutôt qu'affronter fermement quelques abrutis sur les réseaux sociaux. Stéphane, qu'est-ce que je regrette la pub du XXe siècle, quand les marques ne craignaient pas de transgresser. Je me souviens d'une pub BNP qui avait bousculé le sacro-saint tabou français de l'argent avec son slogan « Votre argent m'intéresse ». C'était l'époque des campagnes provocatrices, à 1000 lieues des clips aseptisés qu'on voit aujourd'hui, comme celle de Leclerc, Eram, Benetton, lorsque des Jacques Séguéla, des Thierry Ardisson ou des Philippe Michel œuvraient. Vous savez, Philippe Michel, c'est le créateur des affiches Myriam, la fille en maillot de bain sur les affiches 4x3 qui disait « Le 2 septembre, j'enlève le haut, le 4 septembre, j'enlève le bas ». Les pubs étaient également très inventives, avec des musiques incroyables, composées pour l'occasion, comme Belle des Champs, vous vous sentez chanté par l'inénarrable Richard Gottener. Tu bagues nos deux dans les pâturages, tu vas te promener, Belle des Champs. Ou la belle mélodie country de la pub Herta composée par Pierre Bachelet. Bref, même les slogans de cette époque demeurent dans nos mémoires. La paire, il n'y en a pas deux, ça c'était Ardisson. Quand c'est trop picot. Vas-y, vas-a, ceinture, ça va fort. À cette époque-là, Stéphane, Twitter n'existait pas. On avait peur de personne et on était libre et on se marrait bien.
Très inspiré une nouvelle fois ce vendredi dans RTL Soir. Éric Brunet, merci Éric.
Merci Stéphane.
18h58, restez là, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Et puis nous sommes vendredi, donc 19h15, le coup d'envoi de On défait le monde. A tout de suite.
RTL Soir.
19h.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et RTL Soir se prolonge avec le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, la petite Mia, toujours introuvable, elle pourrait se trouver à l'étranger.
L'hypothèse en tout cas n'est pas exclue par le procureur d'Épinal, 3 jours après le kidnapping de la fillette par des survivalistes. Dans ce journal également, le gouvernement qui réfléchit à la 3e dose du vaccin, le flop de l'élection des syndicats dans les très petites entreprises, encore une fusillade mortelle aux États-Unis, et puis les baskets les plus chères du monde. Le pire, c'est qu'elles ne sont même pas neuves.
À la fin du journal, la météo et le froid, toujours.
RTL Soir.
Trois jours après le déclenchement de l'alerte enlèvement pour la petite Mia, ils sont désormais quatre suspects en garde à vue. La fillette et sa mère sont toujours introuvables ce soir. Dimitri Ramelot, les autorités pensent qu'elle pourrait avoir passé la frontière.
Oui, pas de pays limitrophe avec le département des Vosges, mais la crainte d'une fuite vers un pays proche, Allemagne, Suisse, voire Luxembourg ou Belgique. Car les quatre gardés à vue, âgés de 23 à 60 ans et recrutés sur Internet par la mère de Mia, ont tous confirmé ses intentions. Nicolas Hetz, procureur de la République d'Épinal.
Lola Montemaggi les sollicitait pour récupérer sa fille dans le but de partir à l'étranger. L'opération avait été préparée de façon précise.
Et le parquet qui a lancé des demandes de coopération internationale a obtenu de la DGSI les informations permettant l'interpellation des quatre suspects, car la voiture de l'un d'eux, suivie par les services secrets dans une affaire de terrorisme, correspondait à l'un des véhicules ayant servi au rapt. Aucun antécédent judiciaire pour les garder à vue aux convictions très profondes.
Le premier, un homme de 58 ans, se disait résistant à la barbarie de ce système. Il estimait avoir permis à une petite fille de retrouver sa mère en agissant à la Arsène Lupin. Il se disait fier de ce qu'il avait fait, jugeant que les placements étaient faits de manière abusive.
Le quatuor en garde à vue n'a donné aucun élément permettant de localiser Mia, reconnaissant simplement avoir remis l'enfant à sa mère 20 minutes après le rapt.
Dimitri Ramelot pour RTL.
On en vient à la vaccination, Alexandre, la vaccination qui progresse.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que désormais quasiment 100% des résidents en EHPAD ont reçu au moins une dose du vaccin. C'est également le cas de 80% des soignants âgés de 50 ans et plus. Mais on est loin d'avoir fini d'entendre parler des vaccins. Le laboratoire Pfizer suggère qu'une troisième dose pourrait être nécessaire et même peut-être aussi un rappel tous les 6 mois ou tous les ans. Le ministre de la Santé confirme que ça fait partie des scénarios envisagés.
Dans l'état actuel des connaissances scientifiques et dans l'état actuel de ce que disent les autorités sanitaires en France, en Europe et dans le monde, il n'y a pas encore de doctrine qui soit établie disant qu'il faille une troisième dose ou des rappels. Mais de fait, nous nous y préparons. Et on peut se dire les choses, dans la meilleure des situations, la vaccination de masse nous libère du virus qui ne reviendrait pas, qui ne muterait plus. Et dans d'autres situations qui peuvent arriver, mais je n'ai pas de moyen de le prédire, je n'ai pas de boule de cristal, vous le savez, eh bien nous pourrions être obligés de proposer une nouvelle vaccination dans un an, dans 2 ans, à des personnes pour pouvoir les protéger dans la durée. Donc tout cela fait partie encore des hypothèses scientifiques, mais nous n'attendons pas que les hypothèses soient validées, nous travaillons tous les scénarios.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui était dans un centre de vaccination à Manosque cet après-midi. Il a également affirmé que la levée du couvre-feu n'est pas d'actualité car le niveau de circulation du virus reste encore trop élevé. On dénombre encore 309 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures. Ce soir, près de 30 500 patients sont toujours hospitalisés à cause du Covid. 5 914 d'entre eux sont en réanimation. Alors toute la journée, RTL a décidé de rendre hommage au personnel soignant mobilisé depuis plus d'un an. Leur combat face à l'épidémie est loin d'être terminé. Philippe de Maria s'est rendu au service de soins intensifs du CHU de Bordeaux.
Le docteur Fabrice Camus, patron de la réanimation ici à Saint-André, termine une garde que l'on peut qualifier d'agitée sur le front de l'épidémie.
Rien qu'hier après-midi, il y a eu une petite dizaine de Covid qui sont arrivés entre 15h et 20h. Et on a quand même accueilli 3 patients dans le service hier après-midi parce qu'ils avaient besoin de forts débits d'oxygène.
Le médecin évoque sans tabou les morts du Covid dans son service. 24 décès sur 190 patients en un an.
C'est difficile à gérer. Penser qu'une maladie infectieuse va entraîner la mort d'un patient, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la psychologie des soignants et dans la prise en charge de nos patients.
Alors il faut parler aux soignants, proposer l'aide régulière d'une psychiatre. Sylvain est un jeune infirmier dans le service depuis 3 ans. Il a donc vécu toutes les vagues de Covid dans une tension constante.
C'est des patients qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent changer d'une minute à l'autre. C'est vrai que ça dure depuis 1 an et donc on a ce travail perpétuel, continu. C'est assez tendu tout le temps. C'est un peu dur.
Un peu dur selon Sylvain, alors il apprécie de parler de la violence du virus avec d'autres soignants.
Ça se met en place, c'est vraiment important. Moi, je pense que c'est vraiment très bien, ça, ces moments de parole. C'est juste de la parole, c'est pas du soutien des fois psychologique, c'est juste le fait de pouvoir parler entre nous, d'avoir un temps dédié pour ça. Ça, c'est vraiment très bien.
Et malgré les morts, malgré la tension, la réanimation de Saint-André n'a pas enregistré de défection. Tout le monde est resté à son poste. Par contre, les propositions spontanées de renfort se font rares.
Au CHU de Bordeaux, le reportage. reportage de Philippe Demaria pour RTL.
Et malgré ces indicateurs inquiétants, le gouvernement assure que les efforts des Français commencent à payer.
C'est en tout cas ce qu'a déclaré tout à l'heure son porte-parole, Gabriel Attal. Selon lui, on commence à observer une diminution de l'incidence et une stabilisation de l'épidémie. L'exécutif est en train de plancher sur le calendrier de réouverture des commerces, des restaurants, des lieux culturels. Ça se fera progressivement à partir de la mi-mai. Mais déjà, en pleine vacances scolaires, la base nautique de Nausée en Loire-Atlantique a pu rouvrir au public depuis cet après-midi pour ceux qui pratiquent le wakeboard. Le nombre de participants est bien sûr limité, mais ça attire déjà beaucoup de monde.
Grande première, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'en fais.
On reprend un peu goût à la vie, hein. C'est pas mal, ça change du quotidien.
On avait hâte que ça puisse rouvrir, donc là quand on a eu la nouvelle de pouvoir revenir, ça nous a vraiment fait du bien. Bon, l'eau est un peu fraîche, 12-13 degrés, ça picote, hein. On est équipé pour, mais les pieds et les mains, elles ont pris un petit peu, ouais. On profite des petits moments qu'on nous laisse, mais on a toujours encore une bride.
Ça se trouve, là, ce qu'on fait, ça va tenir 2 semaines, et il y aura une nouvelle règle et ça tiendra plus. On sait ce qu'on peut prendre aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on pourra prendre demain, en fait.
Voilà, 12-13 degrés, il faut quand même être courageux. Des propos recueillis par Patrice Gabart en Loire-Atlantique pour RTL.
Une participation au plus bas pour les élections dans les petites entreprises.
La CGT est arrivée à nouveau en tête devant la CFDT, mais seuls 5% des salariés des TPE ont exprimé leur suffrage. Anaïs Bouissou, c'est du jamais vu.
Oui, on peut dire qu'on touche le fond pour ces élections qui concernent en principe 5 millions de salariés. Vous l'avez dit, seuls 5,4% de vote, et c'est une mobilisation qui n'a fait que baisser. En 2012, on était à 10% de salariés votants. En 2017, la dernière fois, on atteignait péniblement les 7,3% de salariés mobilisés. Alors, l'une des explications des syndicats, c'est la crise. Les salariés étaient occupés sur d'autres fronts. Ils avaient autre chose à faire que de voter, et la campagne syndicale a été compliquée à mener sur le terrain. L'autre piste pour comprendre, c'est que dans les toutes petites entreprises, dans les structures de moins de 11 salariés, quand vous êtes quasiment en tête à tête avec votre patron, vous ne voyez pas forcément l'intérêt d'avoir un syndicat en plus pour vous représenter. Et ce, malgré les incitations à voter passées par l'administration à grand renfort de communication ces dernières semaines. Ce résultat faible, tous les syndicats le reconnaissent, même la CGT arrivée en tête. Le syndicat Force Ouvrière va même jusqu'à se poser la question dans un communiqué de la pertinence de ce scrutin.
Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Il avait été ministre sous Chirac et maire du Raincy de 1995 à 2014. Éric Raoult est mort. Il avait 65 ans. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, lui rend hommage. Compagnon gaulliste, adhérent historique du RPR, Éric n'a jamais renié ses convictions. L'eurodéputé du RN Thierry Mariani rappelle que surtout c'était un homme profondément généreux et bon, rare en politique.
RTL Soir avec Stéphane Carpentier.
Et la suite du journal à 19h08 avec Alexandre de Saint-Aignan. Ce sont les États-Unis, la violence des armes meurtrit l'âme de notre nation. Ce sont les mots ce soir de Joe Biden après une nouvelle fusillade dans son pays.
Au moins 8 morts à Indianapolis. Ça s'est passé dans un entrepôt FedEx la nuit dernière. Un homme a ouvert le feu avant de se suicider, Karine Otten.
La police est encore très prudente car elle n'a pas formellement identifié l'auteur de la fusillade. C'est un témoin de la scène présent vers 23h à l'extérieur de cet entrepôt FedEx en marge de l'aéroport d'Indianapolis qui raconte ce qui se serait passé. Après avoir entendu une dizaine de coups de feu puis une rafale, il a vu un homme sortir criant, capuche sur la tête et fusil automatique au poing. La police confirme que 4 victimes ont été retrouvées à l'intérieur et 4 autres sur le parking. Le tireur, lui, s'est suicidé à l'arrivée de la police. Toujours selon ce témoin, il s'agirait d'un employé de l'entreprise logistique. Le maire d'Indianapolis est l'un de ces 150 maires qui ont demandé la semaine dernière au Sénat de resserrer les vérifications lors des achats d'armes. Et surtout, cette nouvelle fusillade intervient juste quelques heures après que Joe Biden ait annoncé des contrôles plus stricts à venir. Il a notamment donné un mois au département de la justice pour proposer une loi interdisant les armes fantômes, ces armes que vous pouvez acheter en kit et monter vous-même.
Les précisions de Karine Otten aux États-Unis pour RTL. L'escalade se poursuit entre Washington et Moscou. La Russie annonce qu'elle va expulser 10 diplomates américains en réponse aux sanctions prises la veille par les États-Unis. Le ministre russe des Affaires étrangères ajoute avoir recommandé à l'ambassadeur américain à Moscou de rentrer dans son pays. Dans le même temps, l'idée d'une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine est perçue de manière positive, je cite, par Moscou suite à une proposition hier soir de la Maison-Blanche.
Après le nuage noir de l'épidémie, le retour du beau temps pour pour la croissance chinoise.
C'est même un rebond spectaculaire, plus 18% sur un an. Même pour la Chine, c'est un record hein, depuis 1992. Après l'effondrement de l'activité due à la crise sanitaire, l'économie chinoise retrouve son niveau d'avant la pandémie. Juliette Jess, c'est bon signe, hein, ça repart.
Oui, les conditions sanitaires s'améliorent. D'abord grâce au vaccin, 10% de la population chinoise est immunisée et les salariés retournent au travail. Avec la sortie du confinement, les ménages chinois, eux, n'ont pas encore repris leurs achats. Mais ce sont surtout les exportations qui gonflent les chiffres. Nous, Français, Européens et Américains, nous avons acheté, par exemple, beaucoup de respirateurs artificiels et de masques chinois. Alors c'est une croissance spectaculaire, mais les économistes s'y attendaient. On appelle ça un effet miroir. L'an dernier, à la même période, la croissance chinoise avait beaucoup ralenti à cause de l'épidémie. En mars 2020, le volume des produits et des services chinois avait baissé de 7 points. Ça n'était pas arrivé depuis près de 50 ans. On compare donc les chiffres d'aujourd'hui à des statistiques très basses. 18% de croissance, ça fait beaucoup d'envieux. C'est en tout cas un excellent indicateur d'une reprise de l'économie mondiale.
Ça c'est sûr, les explications de Juliette Jay pour RTL.
Puis on reste en Chine, tiens, avec la paire de baskets la plus chère du monde.
Elles sont exposées, ces baskets, actuellement à Hong Kong, avant d'être vendues aux enchères. Une paire de chaussures au prix stratosphérique, ce sont des Nike Air Yeezy One. Et si elles sont si chères, c'est parce qu'elles ont été portées par Kanye West, le rappeur international qui les a inspirées, Philippe Dova.
Oui Alexandre, des baskets montantes noires, estimées au moins à 2 millions de dollars US, mais les prototypes uniques des Nike Air Yeezy One, fruit de la collaboration de l'équipementier américain avec Kanye West, est porté pour la première fois par le rappeur sur la scène des Grammy Awards en 2008. À ce prix, pas de risque de mauvaises odeurs, les Yeezy trônent dans une vitrine blindée, protégée par des agents de sécurité, mais pas de quoi impressionner les amateurs d'art comme Elvin.
C'est dingue, je ne sais pas quoi dire. 2,5 millions, mais ce n'est qu'une paire de chaussures. L'art, vous pouvez l'accrocher au mur. On ne peut pas comparer des chaussures à une œuvre d'art, en tout cas pour moi. Pour d'autres, c'est peut-être de l'art.
Et quitte à investir dans la chaussure, notre collectionneur préférerait un modèle signé Arizomi au prix dérisoire de 20 000 US.
Elles sont pleines de couleurs, elles me rendraient heureux. Je n'aime pas le foncé, ça stresse et rend malheureux. J'achète de l'art qui me rend joyeux.
Et si malgré tout vous rêvez de vous offrir les précieuses Kanye West et que vous chaussez du 46, Alexandre, alors faites-vous plaisir. En toute discrétion, la vente est privée et Sotheby's ne communiquera ni le prix final, ni le nom de l'acheteur.
Bon, si ça vous dérange pas, Philippe Dova, je vais passer mon tour. Moi, je fais du 42, je sais pas pour vous, Stéphane. Peut-être.
46, moi. Ah, bon, voilà. Mais j'ai pas d'argent.
Allez, du football ce soir à suivre sur RTL à partir de 20h. Un match avancé de la 33e journée de Ligue 1 avec Lille qui reçoit Montpellier, le LOSC leader qui va tenter de conserver ses 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain.
Alexandre de Saint-Aignan vous a informé, il revient rien que pour vous tout à l'heure à 20h sur RTL. La météo, Valérie Quintin, toujours froid.
Ah oui, non, mais on s'en sort pas. On va encore avoir quelques gelées demain matin dans l'Est ou encore dans les régions centrale avec un ciel souvent dégagé au réveil, sauf près de la Méditerranée où on aura déjà quelques averses orageuses. Ça va être le cas toute la journée, même si ça va régresser un petit peu vers la Corse et plutôt en Méditerranée. Sur le continent, on peut espérer une petite accalmie, notamment vers les Alpes-Maritimes et le Var. Ailleurs, un ciel assez nuageux dans l'après-midi, des éclaircies un peu plus larges près des côtes de la Manche et près des côtes atlantiques et des températures qui ne décollent pas. 11 degrés à Langres et à Tarbes dans la journée, 12 à Rouen et Lyon, 13 à Alençon, à Paris, à Biarritz, 15 à Montélimar et 16 à Nice et à Bastia.
C'est normal pour une mi-avril, ça ?
Non, c'est pas normal.
C'est
on
pas
est
normal,
en dessous.
Madame.
Non, cette fois, on est vraiment en dessous, oui.
Faites quelque chose, Valérie.
Mais je sais pas, j'ai peut-être un petit truc pour la fin de semaine.
Ouais.
Mais c'est pas gagné. Et puis, ce sera pas foufou non plus. Hein.
Valérie Quintin, la météo complète pour votre week-end. Donc, il va faire bien froid. On va se réchauffer tous ensemble avec l'équipe dont défait le monde.
Ah, oui.
On est ensemble jusqu'à 20h avec Brice Dugénie, Laurent Tessier, Marie Mollet, Greg Omanette et bien sûr, Cyprien Sidi. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Ça fait chaud au cœur d'être avec vous.
À tout de suite.
RTL Soir.